Ben, merci à TAC 15e pour l'invitation. C'est... Je suis ravi de pouvoir en fait exposer ce que j'appellerais un cas d'école. En fait, je ne présenterai pas ici le rôle du Canada dans le contexte des législations offshore seulement comme étant intéressant en tant que tel, mais en tant qu'il donne une idée d'un type de paradis fiscaux qui se développe, qui serait, je dirais, les paradis fiscaux mixtes, quoi. C'est-à-dire pas seulement les paradis fiscaux auxquels on est habitué quand il s'agit de citer, je ne sais pas quoi, les Bahamas, la Barbade, les îles Vierges britanniques, le Singapour et autres, mais des États traditionnels, des États de droit, qui tendent à offshoriser des pans entiers de leur législation de façon à attirer des investisseurs. Le Canada en fait partie, on pourrait aussi citer l'Irlande, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, ainsi de suite. Je me propose dans un premier temps de s'arrêter sur le cas canadien, et dans un deuxième temps, de voir plus théoriquement ce que ce cas-là infère comme questionnement. Moi, je me suis intéressé aux paradis fiscaux du point de vue de ma discipline, qui est la philosophie politique, qui est un peu peut-être étonnant, là, dans le sens où on s'attend habituellement à ce que ce soit des juristes ou des fiscalistes qui abordent la question des paradis fiscaux. Alors que la conviction, que c'est ce que je vais essayer d'exposer ici, que les paradis fiscaux soulèvent un très grand nombre de problèmes de type conceptuel, c'est-à-dire qu'ils questionnent un grand nombre de termes qu'on a tendance à utiliser quand vient le temps de décrire finalement la réalité géopolitique contemporaine. Donc c'est à ça que je voudrais arriver. D'abord, parler du Canada, c'est difficile. On est amené très vite à abandonner cette espèce de poésie d'agence de voyage dont on écope habituellement quand il est question du pays, surtout ici. Ma cabane au Canada est une représentation qui a peu d'actualité pour aborder un pays fort problématique dans l'histoire, qui est un hybride, un pays composite, qui est à la fois un état de droit, une colonie, encore aujourd'hui. Un pays impérialiste, on n'a qu'à penser à son histoire quant aux Premières Nations, mais aussi à son histoire dans la Caraïbe britannique, et aussi un paradis fiscal en devenir. Bon, c'est tout ça à la fois. C'est intéressant de voir que ce pays caméléon parvient à se présenter sous un jour ou sous un autre selon les circonstances. On peut dire aussi que du Canada, qu'il a été un paradis fiscal avant la lettre. En tous les cas, en 1913, l'Humanité de Jean Jaurès, avant d'être l'organe officiel du Parti communiste, a décrit, dans une série d'articles, le Canada avec les termes qu'on utiliserait aujourd'hui pour décrire à peu près n'importe quel paradis fiscal. Je cite l'Humanité de 1913, qui, à ce moment-là, faisait une série de textes sur Barcelona Traction, qui est une société qui avait été créée par des Européens au Canada pour filouter des épargnants européens qui se procuraient des actions vaines d'un titre inscrit au Canada. Et on lisait ceci dans le journal de Jaurès. En matière de société, la législation canadienne est particulièrement élastique. Elle permet les combinaisons les plus aléatoires. Grâce à elle, les hommes d'affaires peuvent drainer l'épargne française au profit d'entreprises plus ou moins illusoires fonctionnant à l'étranger. Il a fallu aller jusqu'au Canada pour trouver une législation qui permet la constitution d'une société de 125 millions de francs, dont pas un seul titre n'a été souscrit en espèces et dont les fondateurs et promoteurs se sont attribués sans scrupule 125 millions de francs d'actions. Or, où vont ces 125 millions? Chez des brasseurs d'affaires, chez des aigrefins de la finance internationale. Et il y en a d'autres, ainsi de suite. Mais au fond, ce qu'on comprend, c'est qu'en 1913, le Canada permet exactement ce qu'a fait plus récemment Bernard Madoff, par exemple. C'est-à-dire, frauduleusement, mettre en jeu sur les marchés des titres qui n'ont pas de valeur substantielle grâce à des législations qui ne prévoient pas de contrôle, pas de réglementation, pas d'encadrement. Et ça, c'est en 1913 ce que le Canada permettait. Le Canada était aussi, avant la lettre, un paradis bancaire, on pourrait dire, au sens où la législation sur les banques au Canada en 1913 était rédigé par les banquiers eux-mêmes. Étant donné qu'on était dans un cadre où le statut colonial du Dominion du Canada ne prévoyait pas des institutions publiques fortes. On ne peut pas dire que les choses ont tellement changé. Le ministre des Finances précédent, Jim Flaherty, avait comme groupe conseil sur la question de la fiscalité des représentants de la Banque royale du Canada, de la Banque Scotia, de l'Orifère Barrick Gold, de la Société de génie SNC-Lavalin, de la firme de comptabilité PricewaterhouseCoopers, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que c'était même plus du lobbying, c'était formellement que le gouvernement se donnait un groupe consultatif sur la question des politiques fiscales formé d'acteurs essentiellement issus du privé qui étaient amenés donc à pratiquement rédiger la loi. Qu'est-ce que ça induit comme situation? Ben, d'une part, un positionnement favorable sur le marché bancaire, d'abord nord-américain. Il faut voir que, dès l'origine, les banquiers canadiens ne se considèrent pas canadiens. Ils se considèrent écossais, ils se considèrent anglais, ils se considèrent américains, ils se considèrent ce qu'ils sont à l'origine, mais ils ne sont canadiens que du fait de l'inscription de leur banque. De la même manière qu'aujourd'hui, un banquier aux Bahamas ne se considère pas bahamien. Il se considère suisse, il se considère saoudien, il se considère allemand, il se considère ce qu'il est depuis là où il opère. Quoi. Le Canada, c'est un peu ça. Quoi. Bon. Et en plus, la réglementation dans ce secteur bancaire au Canada étant si avantageuse qu'elle permettait aux banques canadiennes une clientèle américaine qui, elle, était face à un secteur financier contraint d'investir dans la Caraïbe britannique par la voie du système bancaire canadien. C'est-à-dire que les banques américaines, jusque dans le premier quart du 20e siècle, n'avaient pas le droit de créer de filiales à l'extérieur des États-Unis. Alors, pour investir dans la Caraïbe, il fallait passer par le système bancaire canadien, d'une part. Donc, ça a amené des Canadiens à créer des banques, des filiales, des succursales dans les Caraïbes britanniques pour permettre à des sociétés comme United Foods, à des sociétés dans le domaine des travaux publics ou du bâtiment, de se développer des projets fort lucratifs pour eux dans la Caraïbe, sans pour autant permettre aux populations insulaires d'accéder au crédit. Et quand il y a eu des soulèvements, il y en a eu beaucoup, les Canadiens et les Américains, très souvent, ont dépêché leur armée pour, entre guillemets, pacifier la vie sur les îles relevant la couronne britannique. Ces îles, bon, je fais une parenthèse, vous les connaissez là, spontanément, c'est les îles Vierges britanniques, les Bahamas, les Caïmans, la Jamaïque, bon, le Belize, bon, pas une île, mais qui est... de la côte, ainsi de suite, ainsi de suite. Les îles turques et caïques, Trinité et Tobago, évidemment. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point porte sur le rapport privilégié du Canada comme colonie aux colonies et aux dépendances britanniques des Caraïbes, dans la mesure où le Canada remplit le rôle de l'intendant du secteur bancaire pour la banque qui, à Londres, a pour fonction de veiller au secteur financier dans ces colonies caribéennes, qui est la Colonial Bank. Au fond, la Colonial Bank confie à une banque de l'Est du Canada, la Halifax Banking Company, tout le secteur bancaire de la Caraïbe, de sorte que ce sont des banquiers canadiens, et c'est là que je vais en venir, dans les années d'après-guerre, qui occupent le secteur bancaire dans la Caraïbe avant même que ces législations-là soient des paradis fiscaux tels qu'on les connaît maintenant. Ils ne le sont pas encore. Ce sont de strictes dépendances, sans grande importance, et qui renvoient à toute la complexité de l'Empire britannique, hein, à savoir qu'encore aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de ces législations de complaisance, de ces paradis fiscaux des Caraïbes, c'est que dans l'Empire britannique et dans ce qui en reste, les entités que l'on retrouve sous la forme de territoires outre-mer, de dépendances, de dominions ou de colonies ont des législations propres qui relèvent directement de la couronne. Donc, ce n'est pas le gouvernement de Londres qui, en principe, peut légiférer sur ce qui se passe le long des côtes du Royaume-Uni, c'est-à-dire bon, l'île de Man, l'île Jersey, et ainsi de suite, ou dans la Caraïbe, c'est-à-dire les Bahamas, les îles Turques et Caïques, ou les Bermudes, quoi. Donc, chaque entité a son pouvoir législatif. Bon, et peut donc se donner ses lois. Donc, dans les années 1950-1960, le secteur bancaire est occupé à hauteur de 60% à 90% par des banques canadiennes, pour les raisons que j'ai nommées. Et survient deux choses. D'une part, ce qui explique le développement des législations caribéennes en paradis fiscaux, hein, c'est pourquoi aujourd'hui les Bermudes, les Caïmans, les Bahamas, un peu plus loin pour d'autres raisons, le Panama, j'y reviendrai, sont cités comme des paradis fiscaux de choix. C'est parce que, d'une part, c'est développé tout le secteur des euro-dollars. Toute la filière des euro-dollars qui s'explique en deux mots ainsi. Dans les années d'après-guerre, le plan Marshall a consisté à activer la planche à billets de dollars de façon à injecter à l'extérieur du marché américain, c'est-à-dire en Europe, quelques 13 milliards de dollars pour relancer, réparer les dégâts de la guerre, évidemment, mais d'un point de vue stratégique, pour ouvrir un marché continental à l'industrie américaine. Alors que General Electric, Boeing, des investisseurs et des entrepreneurs dans le domaine du bâtiment des travaux publics, des firmes d'ingénieurs, ainsi de suite, pouvaient trouver des contrats parce qu'on injectait comme ça 13 milliards de dollars en Europe. Ce qui voulait aussi dire, puisqu'il n'était pas question pour les États-Unis de réintégrer ces fonds-là une fois qu'ils les auraient servi à dynamiser l'économie européenne, de crainte de créer un phénomène inflationniste sur le territoire américain, ce qui voulait donc dire qu'en Europe, soudainement, des banquiers géraient massivement des devises, des fonds libellés dans une devise autre que celle de leur pays d'inscription. Et tout d'un coup, des banquiers français, des banquiers autrichiens, des banquiers allemands, des banquiers britanniques géraient massivement des dollars qui n'étaient contrôlés par personne. Et c'est à partir de là que les États-Unis ont commencé à dire « Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. » Dans le sens où le dollar, désormais, il appartient à tout le monde, et il appartient à tout le monde d'en faire une devise forte, puisque tout le monde en détient. Et que c'est la devise par laquelle on libelle la plupart des transactions internationales d'envergure. Et donc, on s'est retrouvé essentiellement à Londres, une fois que ces fonds des actifs financiers au-delà de simplement le financement d'opérations dans l'économie réelle. On s'est retrouvé donc à Londres, d'abord, et dans un deuxième temps, dans ce qui était appelé à devenir des paradis fiscaux, à gérer ces euro-dollars. Et donc, on a en George Bolton, par exemple, un acteur emblématique de cette période, puisqu'il était d'une part le fondateur de la Bank of London and South America, et avec la Banque de Montréal, la Bank of Montreal, il a créé la BOSLA, qui est une banque spécialisée dans les euro-marchés, donc dans ces capitaux libellés en dollars américains, générés et concentrés en Europe d'abord. Donc, il s'est spécialisé dans la gestion de ces euro-dollars dans des paradis fiscaux des Caraïbes, les Caïmans, la Jamaïque, Trinité et Tobago. Donc, dans un premier temps, on a trouvé en l'apparition de ces fonds, dans l'apparition de cette planète financière, une justification, une motivation depuis la Caraïbe pour inciter les législateurs à transformer leur législation de façon à permettre aux acteurs financiers présents sur place de manier ces fonds sans quelque contrainte que ce soit, sans réglementation. C'est à partir de là que sont apparus à terme les fonds de couverture, les fameux hedge funds qui ont joué un grand rôle dans la crise économique de 2008. Il s'agit de faire une histoire, disons, rapide, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour expliquer les raisons de cette genèse, mais d'une manière concomitante, en même temps qu'apparaissait sur un mode plutôt licite ou sur un mode, disons, anomiques, quoi, dire, prévues par aucun système de droit, ces fonds issus du plan Marshall et de l'activité économique européenne, apparaissaient les fonds issus du crime organisé aux États-Unis. Du fait, c'est un peu truculent et émoustillant de parler de ces sujets, mais il reste qu'il y a des enjeux bien réels qui sont à relever. Du fait que Al Capone se soit fait pincer sur la base de délits fiscaux, les principaux acteurs du crime organisé aux États-Unis, comme Meyer Lansky ou John Paulman, ont compris tout l'intérêt pour les gestionnaires de filières criminelles aux États-Unis de blanchir leurs capitaux à l'extérieur des États-Unis selon des modalités sophistiquées. D'abord en Suisse et ensuite à Cuba, où on a créé des casinos pour blanchir les fonds issus de trafic criminel aux États-Unis. Les gestionnaires de casinos mafieux à Cuba se sont heurtés à un inconvénient en 1959, qui s'est appelé Castro. Et cela a amené les opérateurs en question à délocaliser leurs activités aux Bahamas. Bon. Aux Bahamas, il y a une figure emblématique qui est présente, qui s'appelle Sir Stafford Sands. Il est à la fois ministre des Finances et ministre du Tourisme. Donc, aux Bahamas, Sir Stafford Sands est en mesure de gérer, enfin, d'encadrer sa législation quant aux deux secteurs que j'ai évoqués. Comme ministre des Finances, il peut très bien aménager sa législation de façon à favoriser l'accueil de capitaux hors de contrôle, issus des euromarchés. Et comme ministre du Tourisme, il peut créer des casinos, des zones franches, dévolu à l'hôtellerie et aux jeux, de façon à favoriser le blanchiment d'argent passant par Miami et venant de Chicago, de New York. Bon. Sir Stafford Sands, dans les années 1960, tout en étant ministre des Finances et ministre du Tourisme, est aussi membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc, il peut, le jour, administrer sa législation de façon à convenir aux intérêts de la banque qu'il a pour mandat de gérer le soir. Dans ces années-là, le personnage de premier plan, qui est officiellement le gestionnaire de trust de la Banque Scotia, une banque canadienne, Donald Fleming, a aussi pour rôle officieux tout à fait notoire de conseiller activement la législation bahamienne pour qu'elle transforme son cadre de façon à prévoir le secret bancaire, un taux d'imposition nul sur un certain nombre d'activités de type financière et ainsi de suite, prévoir un certain nombre d'entités de type offshore là, telles qu'on les connaît maintenant. Bon. Donald Fleming est l'ancien ministre des Finances du Canada du gouvernement de John Diefenbaker. Donc, c'est un ancien ministre des Finances qui, au terme de sa carrière politique, déménage ses pénates aux Bahamas, travaille pour une banque canadienne et conseille activement et notoirement les autorités politiques bahamiennes pour qu'elles transforment leur législation en paradis fiscal au moment où il y a tout le développement des euromarchés et l'apparition de fonds criminels à l'international. On en est là. Bon. Évidemment, cela déplaît quelque peu à l'IRS et à la justice américaine si on aborde les choses du point de vue de ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle la main gauche et la main droite de l'État. Donc aux États-Unis, la main gauche commence à s'activer et comprend qu'il y a énormément de fonds qui échappent au fisc à cause des politiques législatives, des décisions législatives de l'entité des Bahamas, de cet archipel. En même temps qu'on comprend que le secret bancaire qui y est voté favorise un certain nombre d'opérations de type criminel. Alors, on a dans la ligne de mire un certain nombre de banques, la Castle Bank, donc, dont n'est pas très loin la CBC canadienne, qui est une banque notoirement mafieuse. Là, je cite des textes de loi, là, vous pourrez le tiers de mon bouquin est constitué de notes de bas de page. Et il y a également la Scotiabank, encore une fois, qui est citée. Quoi. Cela amène les autorités des Caïmans à dupliquer le modèle pour favoriser un exode d'acteurs qui se sentent visés aux Bahamas dans cette nouvelle législation des Caïmans qui, elle, blinde tellement le secret bancaire que même des fiscalistes offsholâtres comme Édouard Chambaud trouvent que la loi va trop loin. Hein, par exemple, la loi stipule... Vous savez un peu comment fonctionne le secret bancaire dans un paradis fiscal? En gros, la loi dans un, consiste... À, c'est, quand on dit qu'un État a, prévoit le secret bancaire, très souvent, ce que cela veut dire aussi, c'est qu'au pénal, dans le droit criminel, on prévoit des sanctions très élevées envers quelque agent que ce soit qui divulgue de l'information à un acteur étranger à la banque. Donc, au fond, on pénalise aux criminels la divulgation d'informations à un tiers quand il s'agit d'informations de type bancaire. Bon, ben, l'auteur des nouvelles lois, c'est-à-dire Jim McDonald, l'auteur des nouvelles lois aux Caïmans qui blindait le secret bancaire consistait à dire que le secret bancaire concernait toute personne, et c'est à peine s'il n'a pas ajouté les animaux domestiques, là, toute personne pouvant être en lien avec quelqu'un qui travaille dans une banque et qui se trouve concerné par la loi même quand il est à l'étranger. Bon, c'était comme une façon absolue d'imaginer comme le secret bancaire. Bon. Et bon, et Jim McDonald, qui est l'auteur de ce concept-là, du secret bancaire absolu, est un ancien membre influent du Parti conservateur au Canada, un avocat d'affaires de Calgary qui a déménagé lui aussi dans les Caraïbes pour créer ce droit. En étant tout à fait... de connivence avec les banques canadiennes présentes sur place. Tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais les banques canadiennes elles-mêmes ont investi dans des projets hôteliers pour favoriser, de fait, hein, le blanchiment de fonds issus d'opérations criminelles aux États-Unis. En Jamaïque, qui était le premier pays que visaient les banques, parce que longtemps, la Jamaïque, ça a été le repère de la Caraïbe britannique. Aujourd'hui, ce serait plutôt Trinité-Tobago, mais à l'époque, c'était vraiment la Jamaïque qui était le pays phare, jusqu'à ce que, en 1962, il y ait un mouvement indépendantiste qui débouche sur l'élection d'un gouvernement social-démocrate, celui de John Manley, qui a tellement effarouché les acteurs financiers et qui était lui-même tellement hésitant à complètement engager la Jamaïque dans des logiques offshore que les choses n'ont pas aussi bien tourné qu'on le sait, mais il reste que en 1956, l'ONU a financé un programme permettant à la Jamaïque de revoir complètement son système bancaire, et l'expert mandaté pour ce faire, c'est l'ancien et le tout premier gouverneur de la Banque centrale du Canada, qui, avec le concours du ministère des Finances du Canada, travaillait à faire en sorte que le secteur bancaire soit revu complètement. Et cette année-là, en 1956, toutes les lois en matière d'imposition du revenu des entreprises ont été modifiées de façon à créer de toutes pièces des entités offshore. Et ces entités-là ont finalement débouché sur la création de zones franches qui, aujourd'hui, minent énormément font la santé économique jamaïcaine, pour ne pas dire la santé tout. Je continue pour voir un petit peu comment évoluent les États-Unis. Et ce que j'essaie de faire à travers tout ça, au-delà de la seule question canadienne, c'est d'essayer de casser cette espèce de dichotomie dans laquelle on a l'habitude de nous enfermer, à savoir qu'il y aurait d'une part les bons États traditionnels, les bons États de droit, et d'autre part les diaboliques et maléfiques paradis fiscaux. C'est de montrer qu'on est dans des jeux beaucoup plus complexes. Le Canada est emblématique de cette complexité. En 1980, le Canada signe avec la Barbade un traité de non-double imposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, un traité de non-double imposition est signé entre deux États qui ont des régimes fiscaux à peu près équivalents. Hein? Et en tout cas, quand il s'agit de deux pays disons, industrialisés ou développés, selon les expressions consacrées. Après, je reviendrai sur les relations nord-sud. Par exemple, si le Canada signe un accord de non-double imposition avec l'Allemagne, c'est normal. C'est censé, parce que qu'est-ce que cela se trouve à signifier? Cela se trouve à signifier que si une entité canadienne crée une filiale en Allemagne et, de par l'activité qu'elle a dans l'économie réelle, génère un certain nombre d'actifs, et que ses revenus sont imposés en Allemagne selon les taux allemands, et qu'ensuite la filiale allemande de l'entité canadienne transfère ses fonds au Canada, il est normal qu'elle ne soit pas imposée deux fois. C'est un peu légitimement dire, ben, ces capitaux-là ont déjà été imposés en Allemagne, je ne voudrais pas qu'ils soient réimposés au Canada. Donc, c'est un traité de non-double imposition entre deux pays qui fait qu'une entité peut s'assurer que ses revenus ne seront pas imposés deux fois dans deux régimes différents si elle en vient à les transférer. Mais quand on signe un accord de non-double imposition avec la Barbade, qui a un taux d'imposition au maximum de 2,5%, mais qui est plus souvent de 0,5%, sur des transactions qui sont souvent totalement factices parce qu'il n'y a rien qui justifie les fonds qu'on investit, les dizaines de milliards qu'on investit chaque année à la Barbade, c'est strictement au fin d'optimisation fiscale qu'on signe un tel accord en tant qu'il s'agit de permettre à des acteurs privilégiés, des banques, des grandes industries, des grandes entreprises, des multinationales, de profiter d'un cadre législatif. Oh, le gouvernement légalise le recours à des échappatoires qui permettent donc à des acteurs de contourner le fisc. On légalise ce qui devrait être, selon l'esprit de la loi, un méfait. Bon, en 1980, le Canada a signé cet accord-là, de sorte que, de plus en plus, les Canadiens, entre guillemets, les multinationales canadiennes, investissent à la Barbade. Mais en fait, elles n'investissent pas. C'est-à-dire que, officiellement, la Barbade est le troisième pays où les Canadiens investissent le plus, hein, avant la France, avant l'Allemagne, avant le Brésil, avant le Japon. Hein. Mais en fait, il s'agit strictement d'échappatoires, ce qu'on feint d'investir. Hein. Il s'agit de mener des opérations factices strictement pour contourner le fisc. Et encore, quand on continue à analyser la chose, on se rend compte que le Canada, comme bien des pays aujourd'hui, a fini par s'inspirer de ses propres créatures pour développer des secteurs entiers de son économie face à des acteurs financiers qui sont devenus souverains. Par exemple, dans le secteur minier, le Canada a aménagé sa législation sur un plan fiscal, sur un plan politique, sur un plan judiciaire, de façon à attirer 75% des sociétés minières du monde. Donc, aujourd'hui, 3 sociétés minières au monde sur 4 sont canadiennes. Donc, on en prend une au hasard, on est presque sûr qu'elle est canadienne. Bon. Alors qu'elles viennent d'Australie, d'Israël, de Suède, de Belgique, de France, des États-Unis, pour les investisseurs viennent de tous ces pays-là pour inscrire des sociétés minières au Canada de façon à exploiter des sites à l'extérieur du pays. On se sert vraiment de la législation comme d'un paradis fiscal, quoi, d'une législation de complaisance. On peut, par exemple, dans le domaine minier au Canada, créer une fiducie de revenus qui prévoit aucun impôt sur les revenus si les actifs miniers sont détenus à l'extérieur du territoire, ce qui fait littéralement de l'entité une structure offshore. Donc, il y a cela. Il y a aussi le fait que, si on pense au rôle du Canada, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, et si on se rappelle que les institutions de Bretton Woods, dont il s'agit, ne fonctionnent pas comme l'ONU, c'est-à-dire que chaque pays n'a pas de siège, mais les pays, normalement, partagent des sièges, sauf quand ils sont très, très puissants. Hein. Eh bien, si on a tout ça en tête, on se rend compte que le Canada, à l'ONU, au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, partage son siège avec 12 paradis fiscaux. Il partage son siège avec l'Irlande et avec 11 paradis fiscaux des Caraïbes, dont le Belize, les Bahamas, la Barbade, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Guyana, ainsi de suite. Des paradis fiscaux très controversés qui sont à peu près tous considérés comme des pays impliqués dans le narcotrafic de la région, lequel trouve sa source, évidemment, en Colombie. Et en 2009, alors que on s'inquiétait à l'échelle internationale du rôle préjudiciable des paradis fiscaux sur les économies, étant donné la crise économique, la crise financière qui sévissait. Vous savez, c'est l'époque où il y avait même un président d'une république sérieuse qui avait dit que les paradis fiscaux étaient finis grâce à lui. Mais donc, en 2009, le Canada, lui, officiellement, au nom des 11 paradis, des 12 paradis fiscaux dont il partage le siège dans ses instances, militait pour la défense des paradis fiscaux en disant explicitement, vous savez, nous, le Canada, on représente aussi 11 pays caribéens plus l'Irlande qui ont une activité financière importante, mais comme elle est saine et transparente, c'est leur expression, il est normal qu'on ne cherche pas à pénaliser. Le Canada se trouvait à distinguer des paradis fiscaux biologiques et équitables par rapport à d'autres qui seraient, condamnables et qu'il ne fallait pas pénaliser les bons paradis fiscaux quand il s'agit de sévir contre les mauvais. Mais ça continue toujours plus avant. Si on regarde, par exemple, pour développer son économie, comment des entités régionales canadiennes peuvent ruser. Vous avez en Nouvelle-Écosse, qui est une toute petite province de l'Est du Canada, un gouvernement qui a créé une entité publique à 100% gérée par des acteurs privés, qui s'appelle le Nova Scotia Business Inc., qui est une entité qui a pour visée d'attirer des investisseurs des Bermudes. Et il s'agit d'octroyer des congés fiscaux importants à des firmes des Bermudes qui délocalisent tout le travail de paperasserie à Halifax et qui embauchent des comptables de Halifax pour faire le travail qui coûte très cher sur place parce qu'aux Bermudes, comme on sait, il y a une crise immobilière importante et il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est depuis les paradis fiscaux qu'on offshorise les États traditionnels. Et donc, aujourd'hui, on a aux Bermudes des entités qui sont gérées depuis New York, hein, parce qu'évidemment, dans les paradis fiscaux, il n'y a rien qui se passe substantiellement. Ce sont, au fond, strictement des jeux d'écriture judiciaire et comptable qui sont en cause. Donc, il y a, des juristes d'entreprise qui créent des filiales, qui sont gérées depuis New York ou depuis Francfort, ou bon, depuis Londres, pour permettre à des acteurs de contourner le fisc. Et tout le travail, ce qu'on appelle le back-office dans le milieu, là, tout le travail d'arrière-boutique, toute la paperasserie qui doit être faite, est exécuté par des comptables de Halifax qui sont embauchés par des firmes de sous-traitance qui vont là plutôt qu'ailleurs puisqu'on leur a donné des congés fiscaux si elles passaient par là. Donc ça donne une idée de la façon dont le pays se développe. Et on pourrait aussi citer... pour montrer quelle est son orientation, un accord de libre-échange qui a été signé entre le Canada et le Panama en 2010. Quand on le sait, ça, c'est foi de tout criminologue sérieux, là, que le Panama, c'est la principale lessiveuse de fonds issus du narcotrafic au monde, on comprend que le Canada accepte d'intégrer son économie à cette énorme lessiveuse. Parce que, statistiquement, lorsque des investisseurs, entre guillemets, panaméens, placeront leurs actifs dans le domaine de l'immobilier ou du divertissement de masse ou peu importe dans quel secteur, la voirie au Canada, ben, le Canada favorisera le blanchiment de fonds issus du narcotrafic. Ça, d'un point de vue statistique, quoi, c'est indéniable. Quoi. Et on a quand même intégré ces économies-là. En disant que, selon le CDE, la situation s'améliore au Panama et que là, on connaît des façons de... Donc, j'arrêterai là en ce qui concerne le Canada, simplement pour montrer combien la situation est complexe quand on parle des paradis fiscaux. Comment, au fond, il n'y a pas d'une part d'honnêtes paradis fiscaux, d'état de droit qui lutte contre de maléfiques paradis fiscaux. Et je pense que cet exercice-là pourrait être fait aussi pour tous les pays qui se disent traditionnels, pour tous les États de droit qui se vantent d'être des grandes démocraties, qui luttent contre les paradis fiscaux délétères. Alors que très souvent, les paradis fiscaux sont les créatures des États traditionnels. Quant au Canada, c'est très clair du point de vue, je dirais, de l'activité. Mais en ce qui concerne la caution, évidemment, c'est le Royaume-Uni qui est en cause en ce qui concerne les entités britanniques des Caraïbes et la France et les États-Unis et la Chine ont leur mot à dire dans le fait qu'existe d'autres paradis fiscaux dans le monde. Et si vous me permettez, vous avez encore 10-15 minutes, j'aimerais passer en revue, au fond, tous les termes qui posent problème quand on parle des paradis fiscaux. C'est-à-dire, à quel point c'est plus compliqué qu'on ne le dit. Et au fond, pourquoi, avant même d'en parler, il faut s'arrêter sur les mots qu'on utilise pour se faire, pour être certain qu'on comprend, au fond, quelle est la nature de l'enjeu, avant même de prétendre en parler. Bon, déjà, les paradis fiscaux répondent à une définition standard qui est assez simple, qui consiste à dire, si on suit ce qu'écrivent les experts de l'OCDE ou d'autres institutions, un paradis fiscal, une législation où on prévoit un taux d'imposition nul ou quasi nul sur un certain nombre d'opérations ou sur les activités d'un certain type d'entité. Deuxièmement, c'est une législation où il n'y a pas de loi substantielle ou contraignante. La loi existe en quelque sorte pour neutraliser le droit tel qu'il existe ailleurs. Ça, c'est une deuxième caractéristique qui se vérifie. Hein. Le troisième point, c'est le secret bancaire. J'en ai parlé. On criminalise la divulgation d'informations à des tiers de façon à blinder le secret concernant non seulement l'identité des détenteurs d'actifs dans une législation ou une autre, mais aussi la nature des opérations, le fait des opérations elles-mêmes. Et le quatrième point concernerait l'absence d'activité substantielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas aux Bahamas ou à Singapour pour mener des opérations relatives à l'économie réelle, c'est-à-dire qu'on y va simplement de jeu d'écriture. Mais je préfère une définition plus floue, au fond, est plus large et plus sensible à des évolutions, qui est celle de Richard Gordon, qui est un fiscaliste ayant travaillé longtemps pour l'IRS, donc le fisc américain, et qui, dans un rapport commandé par la Maison-Blanche de Washington en 1980, et c'est un des tout premiers rapports officiels qu'on a sur le phénomène offshore, là, disait, au fond, à peu près ceci, je traduis grossièrement, là, un paradis fiscal est une législation considérée telle par ceux qui en profitent. Et ça avait le mérite, au fond, en anglais, on dirait aussi de proof of the pudding is in the eating. Là. C'est-à-dire que, en fond, ça nous montre ceci, qu'il y a activité offshore lorsque se trouvent concentrés d'une manière injustifiable des actifs et des entités dans une législation où l'économie réelle ne le justifie pas. Quand tout d'un coup, on voit toutes les grandes entreprises américaines se ruer au Delaware, quand on voit tout d'un coup tous les investisseurs canadiens se ruer à la Barbade, ou les contribuables allemands s'éprendre du Liechtenstein, ou les artistes adorer l'Irlande, bon, on se dit qu'il y a des raisons qui n'ont pas nécessairement d'entrée de jeu à correspondre à une définition très étroite. Au fond, ces mouvements-là doivent appeler un travail de définition plutôt qu'un travail de définition servir à se dire si telle ou telle entité est paradisiaque ou pas. Quoi. C'est comme ça que je dirais les choses. Ensuite, si je continue... Je reviendrai ça tout à l'heure. Je dirais de l'expression paradis fiscal elle-même qu'elle est problématique. Parce que l'expression paradis fiscal constitue le fait d'un recyclage de l'esthétique coloniale. Quand on s'est mis à parler de paradis fiscaux dans les années 60, c'est que des fiscalistes un peu cyniques, ne sachant pas trop comment désigner cette chose qui avait souvent lieu dans d'anciennes colonies, se sont contentés de recycler l'esthétique coloniale qui avait permis de décrire ces espèces de îles lointaines où toute licence est permise, avec des cocotiers, des palmiers, enfin voilà, tout ça est très codifié, quoi. Et au fond, c'est aussi une façon d'empêcher l'esprit de vraiment saisir ce qu'il en est, de ce qui s'y passe, quoi, sous une forme vraiment très romancée, quoi, où on fait esthétique, justement. Même chose pour l'expression « offshore », qui veut littéralement dire « au large », alors que, comme j'essaie de le montrer, non seulement les opérateurs d'activités offshore sont dans les États traditionnels et sont les principaux concernés, les entreprises, mais aussi les firmes de vérification, d'audit ou les firmes de comptabilité, mais également, de plus en plus, les États traditionnels tendent à offshoriser des secteurs entiers de leur économie. Par exemple, en France, il s'est développé il y a un certain nombre d'années un pavillon de complaisance pour essayer de retenir un certain nombre d'armateurs ici pour pas que tous fassent battre pavillon de complaisance à leur navire. Aussi, et je dirais surtout, le grand problème avec les paradis fiscaux, c'est qu'on continue de parler de ce qui s'y trame avec les mots de l'économie réelle. Et je pense que ça, c'est le principal piège et le principal point sur lequel il faudrait s'arrêter. Continuellement, on décrit ce qui se passe dans les paradis fiscaux avec des mots qui ne sont pas adéquats, et pire encore, avec des mots qui sont précisément ce par quoi se déguisent les intéressés. Et ça, comment ils déguisent leurs opérations. Je donne un exemple, les trusts. On dit souvent qu'il y a formellement des trusts à Hong Kong, il y en a au Caïman. Bon, on peut créer un trust. Mais un trust, par définition, c'est une entité qui est créée par un fondateur qui confie à un administrateur des actifs au bénéfice d'un tiers. Trois acteurs différents, là, hein. Je confie un administrateur des biens immobiliers, financiers, ainsi de suite, au bénéfice de quelqu'un qui un jour en profitera selon les termes d'un contrat, quoi. Bon. Ou qui peut en profiter sur une base immédiate, mais sans pour autant être actif dans la gestion du bien. Bon. Eh bien, on peut très bien, dans les paradis fiscaux, voir le créateur, le gestionnaire, le bénéficiaire du trust être la même personne. Ça peut être la même personne, et ce sera même dit dans la loi explicitement. Dans la loi, entre guillemets. On voit très bien que ce n'est plus un trust par définition, mais on va appeler ça un trust. Même chose pour les fondations caritatives ou les associations caritatives. En 2009, si on se fie à un article de l'Express, c'est une association caritative qui était formellement propriétaire de toute la flotte d'Air France. C'est une drôle de dévotion. Et évidemment, pour des raisons fiscales, il était avantageux pour Air France, de louer à une association caritative les avions qu'elle utilise pour mener ses opérations commerciales, quoi. Alors, est-ce que c'est encore une association caritative? Qu'est-ce que ça veut dire? Plus important, les investissements directs à l'étranger. Bon, je cite des données que j'ai analysées cette année qui sont du Canada, mais on aurait le même problème ici, j'en suis sûr. Les Canadiens ont investi en date de 2013 170 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Mais ils n'ont rien investi du tout. Par définition, un investissement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, pour une entreprise, de placer des fonds dans des immobilisations aux fins d'opérations fondées, quoi, dans des démarches, dans des pratiques. Donc là, on est plutôt en présence de transferts qui visent strictement l'optimisation fiscale, mais qui sont déguisés en investissement. Et donc, quand une entreprise est soupçonnée par une institution fiscale d'avoir, d'une manière illicite, mené des opérations dans un paradis fiscal, elle va toujours dire « Non, mais vous comprenez, la personne qui a le génie pour mener ces opérations-là, elle est à la Barbade, donc on a besoin que ça se passe. » On va feindre une justification, alors qu'en réalité, il s'agit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, strictement d'opérations qui visent à contourner le fisc ou à contourner le droit, de manière plus générale. Un jour, un représentant de la firme d'avocats Maples, qui est la firme que se trouve avoir créée à l'époque Jim McDonald, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'avocat canadien au Caïman. Un représentant de cette firme qui est spécialisé non seulement dans la délocalisation d'actifs dans les paradis fiscaux, mais dans la création même de paradis fiscaux, avait décrit les îles Caïmans comme l'endroit où règne le capitalisme pur. Et le capitalisme pur, on a besoin de passer par Kant pour comprendre. Ce qu'il entend par là, c'est un capitalisme sans les épreuves du capitalisme, auxquelles se confronte le capital, quoi, sans impôts, sans institutions publiques. Je dirais même sans histoire, hein, parce qu'on parle d'entités qui datent d'une époque, qu'on sort presque du formol, hein, pour activer sur un mode tout à fait... profitable, sans que l'histoire soit en cause. Et c'est essentiellement aussi le capitalisme sans les gens. Aussi, ça, c'est le capitalisme purement spéculatif qui ne rencontre pas d'entrave. Et donc, il y a un problème aussi quand on parle de législation. Quand on va dire, bon, ben, aux Bahamas, en Jamaïque, aux îles Seychelles, dire, qu'est-ce que sont que ces législations où il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'institution, où on lubrifie le capital à un point tel qu'il ne rencontre plus d'obstacles et qu'il se régénère lui-même, comme au Caïman, dans les fonds de couverture, où il s'agit essentiellement d'un calcul qui, si on se rappelle l'équation de Marx, là, passe directement du A au A' sans passer par la marchandise. Là, où finalement, la marchandise, c'est strictement l'opération mentale qui consiste à investir de la créance dans la valeur d'un bout de papier. Ouais, c'est un bout de papier qui est lui-même virtuel et qui est transigé en nanosecondes. Ça, c'est un autre problème. Donc, on voit qu'on est dans un contexte où il faut reprendre à zéro les termes. Mais au fond, je dirais que si les sciences humaines si la philosophie politique, si la pensée critique sont bienvenus pour penser la question des paradis fiscaux, c'est qu'au fond, les paradis fiscaux sont tellement graves comme problème, ils représentent une problématique tellement ample qu'ils en sont à affecter le sens même des mots qu'on utilise pour les nommer. C'est-à-dire que le réflexe, quand vient le temps d'aborder la question des paradis fiscaux, c'est d'utiliser les termes courants de la pensée politique comme l'État, comme le territoire, comme la loi, comme le droit, comme le crime, comme la souveraineté, pour finalement essayer de comprendre une situation, alors que la situation est tellement grave et importante historiquement qu'elle affecte le sens de ces mots-là. C'est qu'aujourd'hui, le mot droit, le mot territoire, le mot crime, le mot loi, le mot souveraineté n'ont plus le même sens dans la mesure où un grand nombre d'opérations et un grand nombre d'entités politiques se trouvent à les pervertir et à les modifier, tout simplement. Marie-Christine Dupuy-Danon, par exemple, auteure du livre « Finances criminelles », qui est une spécialiste en matière d'anti-blanchiment, qui a travaillé à l'ONU, et ainsi de suite, elle écrivait ceci, qu'aujourd'hui, un acteur qui a en tête de mener une opération délictueuse n'a plus à se demander si, au fond, c'est d'une manière casuistique, si on veut, ou si ce qu'il a en tête de faire est légal ou pas, mais simplement d'inscrire ces opérations là où elles sont légales, pour éviter simplement d'être sous le coup de la loi telle qu'elle existe là où les opérations ont effectivement lieu. S'il s'agit de continuer dans la description, le problème du langage quand il y a le temps de poser la question des paradis fiscaux, j'insisterai aussi sur ce terme générique que j'ai développé ces dernières années, qui est celui de législation de complaisance, que je préfère largement à paradis fiscal. Les paradis fiscaux existent bel et bien, ce sont, comme leur nom l'indique, des législations qui permettent à des contribuables de contourner le fisc là où ils sont, sur un mode légal ou illégal, selon la complaisance des États traditionnels qui pactisent avec eux, mais qui sont néanmoins opératoires en cela. Bon, mais les législations de complaisance couvrent un spectre beaucoup plus large d'entités du genre. Il y a les zones franches qui concernent le transport maritime, par exemple. Il y a les ports francs qui concernent le travail. Il y a les paradis réglementaires, par exemple, en ce qui concerne le Canada et les questions minières. C'est beaucoup plus sur la base réglementaire que le Canada est attrayant, parce qu'il permet des choses, par exemple, la divulgation d'informations sur les marchés financiers que ne permettent pas d'autres États. Il y a les paradis bancaires, ainsi de suite. Quoi. Et au fond, l'expression « législation de complaisance », elle est terrifiante en même temps, parce qu'elle permet de comprendre à quel point la question fiscale est seulement marginale dans le portrait. Parce qu'au fond, cette logique en cause dans le domaine fiscal s'applique dans tous les secteurs. C'est qu'aujourd'hui, si je reprends l'image de Marie-Christine Dupuy-Danon, savoir qu'un acteur aujourd'hui n'a qu'à se demander où inscrire ses opérations pour qu'elles deviennent légales, au fond, aujourd'hui, dans chaque secteur d'activité, il y a une législation qui est adaptée pour correspondre aux aspirations à l'ultralibéralisme d'acteurs puissants. En fond, j'ai l'habitude de dire que les législations de complaisance sont un petit peu comme les boutiques dans une rue commerçante. Hein. C'est que chaque législation de complaisance a son expertise, a sa spécialité. C'est pour ça qu'il y en a des dizaines. Ce ne sont pas des législations interchangeables. On ne fait évidemment pas la même chose aux îles Seychelles qu'au Panama. On ne fait évidemment pas la même chose aux Bermudes qu'au Libéria. Au fond, s'il y a autant de législations de complaisance, c'est qu'au fond, chaque législation de complaisance développe un secteur qu'il s'agit de vendre de la permissivité à outrance. Donc, dans le domaine fiscal, cela se vérifie aussi législation par législation. Le Liechtenstein est spécialisé dans l'évitement fiscal profitant aux contribuables allemands, Monaco, la Suisse par rapport aux États-Unis, à la France, la Barbade par rapport au Canada, ainsi de suite. C'est-à-dire que il y a une connexion aussi entre les Pays-Bas et l'Irlande. En fait, c'est-à-dire que les législations de complaisance d'un point de vue fiscal, déjà là, se ramifient. Mais aussi du point de vue, par exemple, de l'assurance. Les Bermudes sont spécialisés dans la réassurance qui permet à des acteurs qui investissent gros dans le domaine de l'assurance de contourner les lois sur l'effet de levier, par exemple. Et aux Bermudes, d'investir des fonds beaucoup plus massivement que ce à quoi qu'ils pourraient légitimement faire ou légalement faire dans d'autres juridictions. En ce qui concerne la finance à risque, c'est des Caïmans. Pour pratiquer le hors-bilan et la comptabilité un peu fantaisiste, il y a le Luxembourg. Les particuliers qui veulent contourner le fisc peuvent aller à l'île Jersey. Pour les droits d'auteur, le droit de propriété intellectuelle, c'est l'Irlande. Pour immatriculer une plateforme pétrolière comme BP dans le golfe du Mexique, on ira aux îles Marshall. Les sociétés minières, c'est au Canada. Pour le Paris sportif, c'est Singapour. Les pharmaceutiques se retrouvent en Côte d'Ivoire. Dans le domaine médical, c'est l'intellectuel, ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque secteur d'activité se trouve, en quelque sorte, chaque acteur de chaque secteur d'activité peut, dans une législation donnée, inscrire une opération qui serait perçu comme étant qui serait donc rendu impossible dans l'état traditionnel. Je pourrais continuer, je préfère qu'on poursuive sur un mode plus dialogique, quoi, mais enfin là, en gros, pour rapiécer tout ça, quoi, l'idée c'est de voir que bon, la question des paradis fiscaux et des législations de complaisance est certainement aussi importante que la question des variations climatiques dans le domaine écologique. Que ce n'est pas simplement une petite mesure, une loi, un protocole, un gadget qui va régler le problème, même si d'un point de vue technique, il est important d'avancer et que les avancées qu'on peut marquer d'un point de vue technique comptent. Il reste qu'il y a une analyse à faire large où on se rend compte que ce qui a été confisqué, c'est je vais vraiment finir là-dessus, mais c'est c'est le pouvoir de décision qu'ont déjà eu sur un mode beaucoup plus net et beaucoup plus large et beaucoup plus tranchant les États en ce qui concerne la vie publique. Les législations de complaisance qui constituent une sorte de régime de souveraineté permettant à des acteurs privés de décider ce qu'est la souveraineté, de prendre des décisions qui s'en suivent d'effet dans l'histoire, indépendamment des cadres étatiques. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une sorte de dialectique où il y a d'une part des entités publiques qui sont censées représenter des populations éveillées au bien public et qui sont de plus en plus, en quelque sorte, corrodées par l'influence de législations autres, d'une autre nature, sur un autre régime, que sont les paradis fiscaux et les législations de complaisance, qui, eux, donnent accès à des assises politiques, à des assises financières, à des assises industrielles, à des acteurs qui n'ont plus à subir les contraintes et l'encadrement qui devraient être le fait de tout le monde dans la vie en société. On peut, à partir de là, discuter sur un point ou un autre, si vous le voulez bien.